Quand je suis née, j'ai tué ma mère. J'ai tué ma mère. Est-ce que ma mère m'en veut ? Depuis le royaume des morts, est-ce qu'elle maudit le jour de ma naissance ? Depuis le royaume des ombres, est-ce que ma mère invisible me dit « Maudit soit le jour, diable abhorré de ta venue au monde. Tu as fait de moi l'objet d'un ineffable malheur. Va-t'en, va-t'en, vil insecte. » M'entend-elle la supplier ? M'entend-elle lui répondre, « Maman, comment pourrais-je t'émouvoir, maman ?» Nulle supplication ne te fera donc regarder avec faveur ta créature qui implore ta bonté et ta compassion. Mais écoute-moi. Laisse éveiller ta compassion et ne me dédaigne pas. Écoute mon récit et quand tu l'auras entendu, abandonne-moi ou prends-moi en pitié, selon ce que je mérite à tes yeux. Les lois humaines, si sanguinaires soient-elles, autorisent les coupables à parler pour leur défense avant d'être condamnés. Écoute-moi. Tu m'accuses d'être un assassin. Écoute-moi. Et puis, si tu le peux et si tu le veux, détruis ce que tu as fabriqué de tes mains.
I smoke because I'm bad. Bad, bad girl. One day I'll be better, but today I'll burn. Cigarettes make me sad. Smoke fills my heart. Cigarettes make me sad. Life is nothing but ash. I smoke because I'm bored, so bored I could die. And when I'm bored, be careful, danger, you're in danger. Cigarettes make me sad. Smoke fills my heart, and cigarettes make me sad. Life is nothing but ash. I smoke to forget. I have no name, no address. And when I die, what will be left? Tiny phantom cigarette end. Cigarettes make me sad. Smoke fills my heart. Cigarettes make me sad. Life is nothing but I...
Ma mère est morte le 10 septembre 1797, à 7h40 du matin, un lundi. 11 jours plus tôt, le mercredi 30 août, à 23h20, j'étais sortie de son corps. Je suis bien sortie du ventre de ma mère. Mais derrière moi, une créature visqueuse s'accrochait. Aujourd'hui, mes membres sont parcourus de tremblements et ma vue se trouble à l'évocation de ce souvenir. Mais alors, un élan irrésistible et presque frénétique me poussait en avant. Il semblait que j'eusse perdu toute forme d'âme et de sensibilité, à l'exception de cette unique quête. Ce n'est pas sans de considérables difficultés que je me remémore l'époque initiale de mon existence. Tous les événements de cette période apparaissent confus et indistincts. Je peux voir, toucher, entendre et sentir en même temps. Petit à petit, je m'en souviens, une lumière plus vive fait pression sur mes nerfs, ce qui m'oblige à fermer les yeux, Puis l'obscurité me recouvre, l'obscurité m'inquiète. Mais à peine ai-je ressenti cela que j'ouvre les yeux et la lumière se déverse sur moi. Qui comprendra l'horreur de ma naissance ? J'ai vu s'abattre toute frontière entre la vie et la mort. J'ai vu comment se dégrade et dépérit la beauté du corps humain. J'ai contemplé la corruption de la mort qui succède à la vie resplendissante. J'ai vu comment le ver hérite des prodiges de l'œil et du cerveau. Je venais à peine de naître et déjà je transformais mon foyer en tombe. Ma première œuvre était un crime, ma première expérience un deuil. Je venais à peine de naître et déjà je vivais sur un champ de bataille. Tandis que j'avançais de toutes mes forces en direction de la lumière, dans les ténèbres du ventre de ma mère, un monstre gorgé de sang, une membrane élastique refusait de me suivre. La sage-femme avait beau tirer sur le cordon, le placenta ne se décollait pas. Des heures et des heures s'écoulèrent. Des heures et des heures. Jusqu'à ce que mon père aille chercher le chirurgien.
Oh, calme-toi. Calme-toi, mon amour. Laissons passer cette nuit et il n'y aura plus rien à craindre. Et cette nuit est terrifiante. Vraiment terrifiante.
Il est déjà 1h du matin. Lugubre. La pluie fouette les vitres et la chandelle est presque entièrement consumée. Dans la lueur de cette lumière expirante, le chirurgien rassemble autour de lui les instruments de vie afin de pouvoir communiquer une étincelle d'existence à la chose inerte gisant à ses pieds. Avec une anxiété qui confine à la torture, il extrait le placenta sans anesthésie jusqu'à l'aube. Ça, c'est la vraie histoire. Mon père la raconte dans la biographie qu'il a consacrée à ma mère. Je connais peu de filles qui ont découvert la vie de leur mère dans le livre que leur père a écrit. Je connais peu de veufs qui se sont donné pour mission d'honorer le génie de leur femme. Quand j'ai lu « Vie et mémoire » de Mary Wollstonecraft Godwin, j'étais déjà mère. À 17 ans, j'ai découvert que j'avais entre les mains le pouvoir stupéfiant d'apporter la vie, avec tout son entrelac de fibres, de muscles et de veines. J'ai connu les accouchements, ces cérémonies sanglantes. Le chirurgien fouille l'humidité de mes entrailles, introduit des pinces griffues entre mes jambes. Viol de ses doigts sacrilèges, les terrifiants secrets du corps féminin. Torture mes organes inertes, épuisés par la création d'un être humain. Des fleuves de sang vident toutes mes veines. Des fleuves de sang se tarissent quand la sage-femme me plonge dans un baquet d'eau glacée. Des jours et des nuits à souffrir. Hurler. Saigner. Sortent de moi, parfois vivantes, souvent mortes. Les créatures ouvrent un œil terne, une mâchoire qui bredouille des sons inarticulés. Les créatures m'emplissent d'une terreur informe. Je me souviens du jour où la sage-femme a déposé entre mes bras ma première fille. C'était en Angleterre, une île perdue au milieu des nuages. À la fin de l'hiver. Quand cette misérable créature a découvert le visage de sa mère, ses membres, agités d'un mouvement convulsif, sous la torture de la douleur, se sont raidis. Dans le corps de mon malheureux avorton, j'ai reconnu l'approche de ce cadavre démoniaque auquel j'avais si malheureusement donné la vie. J'ai reconnu le spectre qui guette les enfants de l'autre côté de la porte de leur chambre. J'ai senti la mort familière, l'odeur de feuilles pourries du cimetière où je suis venue au monde. Je me suis réveillée pour le faire téter et il semblait dormir si calmement que je suis restée à le regarder, tremblante de fièvre, ignorant si les pulsations qui résonnaient dans mon corps étaient dues à l'afflux de lait. Le lait cognait contre ma poitrine, ou à mon cœur affolé qui devinait que je n'étais plus mère à présent. Sur la peau blême de mon petit bébé, tellement pâle qu'on aurait dit que le chirurgien lui avait arraché les veines une à une, avec ses pinces, j'ai reconnu les stigmates de mon crime originel. Tout recommençait. Tout recommençait, 11 jours et 11 nuits d'attente. 11 jours et 11 nuits à l'issue desquelles l'enfant que j'avais été, la mère que j'étais devenue, sortirait seule vivante de l'enfer flou et des limbes. Entre ma naissance et la mort de ma mère, 11 jours et 11 nuits s'étaient écoulés. Entre la naissance et la mort de mon petit bébé, 11 jours et 11 nuits revinrent. Dans mon journal à la date de sa mort, j'ai griffonné 6 mars 1815. Je trouve mon bébé mort. Pâle. Un jour malheureux. 9 mars 1815. Lis et parle. Je pense encore à mon petit bébé. Vraiment dur pour une mère de perdre un enfant. 13 mars 1815, reste faire du crochet à la maison et pense à mon petit bébé mort. C'est idiot, je présume, mais à chaque fois qu'on me laisse seule avec mes pensées et que je ne lis pas pour les distraire, elles reviennent toujours au même point, au fait que j'étais une mère et ne le suis plus. 19 mars 1815, je rêve que mon petit bébé est revenu à la vie, que cela a seulement eu froid et que nous l'avons frictionné devant le feu et que cela a vécu. Je me réveille et je ne trouve pas de bébé. Je pense à la petite chose tout le jour, le moral n'est pas bon. 20 mars 1815, je rêve encore de mon bébé. L'Angleterre, mon île perdue au milieu des nuages, affleure maintenant dans mes rêves comme un navire pris dans les glaces. Je suis cerné par des montagnes de glace qui n'offrent pas la moindre issue. Ô cortège spectral, 11 jours jusqu'à la mort de ma petite Clara. 11 jours pour que la mère vole à la fille sa vie. 11 jours entre la naissance de Mary, la fille, et la mort de Mary, la mère. 11 jours pour que la fille vole à la mère sa vie et son prénom. Durant ces 11 jours, mon père écrit que ma mère supporta ses souffrances avec douceur et patience. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ma mère détestait la douceur. Ma mère était folle d'impatience. Ma mère se moquait des sentiments édifiants. Mary est morte à 38 ans, sans avoir eu le temps de me donner des leçons. Mary est morte à 38 ans, sans avoir eu le temps de me donner un prénom. Mary. Mary. Est-ce mon père qui m'a appelée comme elle, Mary? Mary, Mary. Est-ce ma mère qui a choisi pour sa fille les prénoms des héroïnes de ses romans? Mary. Une fiction, Maria ou le malheur d'être une femme.
Mary.
En mourant, tu m'as changé en personnage.
Mary.
En mourant, tu m'as transmis le malheur d'être une femme. Pourtant, l'histoire n'a pas commencé comme ça. Je n'aurais jamais dû recevoir
Mary,
le prénom de ma mère. Je n'aurais jamais dû connaître le bonheur d'être un personnage de roman. Le malheur d'être une chose nulle, un néant, une femelle. Si j'avais obéi au désir de ma mère, je serais née
William.
William, comme mon père.
Le gentil petit William n'aurait jamais tué sa mère.
Le gentil petit William serait devenu un lecteur sage, un libraire érudit, un lettré silencieux comme son père. Le gentil petit William aurait enseveli sa famille sous des éditions savantes. Le gentil petit William n'aurait jamais voyagé. Le gentil petit William n'aurait jamais profané son foyer par deux fois. La première fois en tuant sa mère, la deuxième fois en fuyant à la nuit tombée avec son amant poète et impie et bigame, la maison de son père. La maison sans lumière, cernée de brouillard, où la petite Mary est enterrée vivante. La maison sans chanson, sans rire, où la petite Mary crève de silence.
But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover, a savage place, as holy and enchanted as e'er beneath the waning moon was haunted by woman wailing for a demon lover.
J'ai 5 ans. J'attends avec impatience les visites de Samuel Taylor Coleridge, un ami de mon père. Je me cache derrière le sofa du salon pour l'écouter déclamer ses poèmes. Je ferme les yeux, sûr d'être invisible derrière mes paupières. Je m'abandonne aux images colorées de Kubla Khan, qui égaye notre tombeau en noir et blanc.
And now the storm blast came, and he was tired and
je ferme les yeux.
The ship drove fast.
Bercé par la voix du grand homme noir qui me parvient, assourdi derrière la barrière du sofa, je n'ai plus peur de la nuit et des rêves. Les cauchemars du vieux marin et les miens se mélangent. Et alors, le souffle de la tempête vint. Il était tyrannique et fort. Ainsi le navire volait. La tempête hurlait. Et j'avais fait une chose infernale. Et cela devait leur porter malheur. Tous affirmaient que j'avais tué l'oiseau qui faisait souffler la brise. Ah, misérable, disait-il, avoir tué l'oiseau qui faisait souffler la brise. Des jours et des jours, nous restâmes figés, sans brise, sans mouvement, aussi immobiles qu'un vaisseau peint sur une mer peinte. L'eau de toutes parts, l'océan même pourrissait. Oh Christ, de telles choses sont-elles possibles? Oui, des êtres de fange avec des pattes brouillaient sur cette mer fangeuse. Les flots, comme les lampes d'une sorcière, brûlaient vert et bleu et blanc. Oh, malédiction, quel mauvais regard me lançaient jeunes et vieux. À la place de la croix, l'albatros fut suspendu à mon cou.
9 fathom deep, he had followed us from the land of mist and snow. Ah, well a day, what evil looks had I from old and young, instead of the cross. cross, the albatross, above my neck was hung.
Depuis le jour maudit de ma naissance, mes nuits et mes rêves ont mué en enfer. Je dors. Je suis assailli par les terreurs qui me hantent. Les terreurs grouillent. Jusqu'à l'aube, mes nuits pourrissent de cauchemars en putréfaction. Une nuit, je tiens ma mère morte entre mes bras. Son corps est enveloppé d'un linceul. Je vois les vers funèbres ramper dans les plis de la flanelle. Avec horreur, je suis arraché à ce rêve. J'ai le front couvert de sueur froide, les dents qui s'entrechoquent, tous les muscles pris de convulsions. Une autre nuit, ma mère surgit dans une rue de Londres. Stupéfaite, ravie, je me précipite pour la serrer contre moi. À l'instant où je dépose sur ses mains un baiser, des milliers de ruisseaux verdâtres crèvent sa peau transparente. L'eau. L'eau de toutes parts. Ma mère se noie dans un fleuve de sang. Loin de moi. Loin vers la Tamise qui l'appelle. Avant ma naissance, ma mère a voulu se noyer.
Absolument rien qui puisse remplacer l'amour que j'ai perdu. Car j'aimais un homme qui, à mes yeux, contenait tout en lui, et duquel je tirais ma seule raison de vivre. Avec lui, tout m'apparaissait futile, et tous les hommes, aussi réels fussent-ils, n'étaient plus qu'un charabia sans contenu. Mais son amour a disparu, et il ne reste plus rien de cet intime sentiment qui nous attirait spontanément l'un vers l'autre. Ah, mon cœur se brise en mille morceaux. Ah, mon cœur se brise en mille morceaux. Dans le cœur, j'ai le mal d'amour. Dis-moi pourquoi tu n'es plus là. Je t'en conjure, ô raison, réponds-moi. Ne peux-tu calmer mon tumulte intérieur? Dans le corps, j'ai le mal d'amour. Si tes baisers ne sont plus là, ne peux-tu éloigner cette tristesse mortelle qui m'accable, ce désespoir si amer? Ne peux-tu effacer le souvenir de l'homme qui m'obsède?
Quand j'étais petite, je passais des heures dans le salon de notre appartement, à Londres. Je contemplais le portrait de ma mère, au-dessus de la cheminée. C'était un sujet historique exécuté à la demande de mon père. Elle portait des habits rustiques et ses joues étaient pâles. Mais elle avait un air de dignité et de beauté qui n'appelait guère la pitié. Je levais la tête et j'écarquillais les yeux. À chaque fois, je tenais un petit peu plus longtemps sans cligner des paupières. J'étais sûre que si on se concentre longtemps sur un tableau, à en avoir les yeux qui brûlent, les épaules qui lancent, les doigts de pied qui se contractent, la nausée, on finit par rentrer dedans. Il se produit une opération magique. On passe de l'autre côté. À l'autre bout du salon, mon père ne remarquait rien. Plongé dans ses livres, il avait l'air de trouver ça normal que sa fille passe des heures debout devant la cheminée sans bouger. Une seule fois, il est sorti de son silence et il a dit « Quand j'aurai lu tous les livres qui ont été écrits, qu'est-ce que je ferai après ?» Sa voix était bizarre. Mon cher, mon vénérable père, cet homme à mes yeux, plus grand, plus sage, meilleur que tous les êtres humains. Mon père était terrorisé. Je me suis retournée, je suis allée vers mon père. Il avait ce regard égaré des gens qui parlent tout seuls. Ça m'a fait un peu honte de voir mon père ressembler au fou que je croisais dans les rues de Londres. Ça m'a fait plaisir aussi parce que l'oracle qui ne me caressait jamais m'a laissé le prendre dans mes bras. Après, il est retourné à son livre, comme si de rien n'était. Alors c'est moi qui ai eu peur, parce que pendant tout ce temps, j'avais relâché ma surveillance. Et si ma mère avait disparu? Ouf, elle était là. Il m'a même semblé que son regard oblique s'était tourné imperceptiblement vers moi d'un degré ou deux. Une voix venue de la tombe prononçait son nom. Il se précipita dans la direction de la voix et prit dans ses bras la forme vivante de sa regrettée bien-aimée, sa femme invisible, comme il l'appelait, la forme ténue, affaiblie qu'il embrassait si tendrement, était l'ombre vivante de sa beauté adorée. Mais comment vous est venue l'idée de la femme invisible, Je n'aime pas beaucoup me mettre en avant dans mes écrits. Non, en l'occurrence, c'est pas vraiment à vous que je... Enfin, c'est pas à vous que je m'intéresse, disons que je... C'est pas à vous que je m'adresse, c'est-à-dire c'est à l'auteur de vos textes. Est-ce que vous souvenez par exemple du premier texte que vous avez écrit, celui pour lequel vous vous êtes dit en vous relisant, voilà, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que je suis. Oui, mes idées, vous savez, je les ai eues bien avant d'être une jeune fille, une jeune mère. Après tout, il n'est pas étonnant qu'en tant que fille de deux célébrités littéraires, j'ai très tôt songé à écrire. Non mais je crois pas que vous m'ayez bien comprise. Enfin, je veux dire, j'ai du mal à me faire comprendre. Je parle pas de vos idées, je parle pas de vos parents. Les idées, les parents, ça n'explique rien. Sans compter que votre héritage, il aurait très bien pu vous rendre muette. Bon. Puisque vous insistez, je vais tout vous raconter. Enfant, je griffonnais. Mais vous griffonniez quoi? Des dessins, des textes, des histoires. C'était mon passe-temps favori pendant mes heures de récréation. Mais ce que j'aimais encore plus, c'était de faire des châteaux en Espagne, de me laisser aller à des rêveries qui s'enchaînaient les unes aux autres. Mes rêves étaient beaucoup plus fantastiques que les textes que j'écrivais. Et plus fantastiques, c'est-à-dire, vous voulez dire que ce sont vos rêveries, vos vrais premiers textes? Mes rêveries étaient sauvages. Mes rêveries étaient libres. Alors que mes textes, bon, il ressemblait aux exercices d'une imitatrice appliquée, d'une bonne élève, d'une copiste presque. J'y faisais ce que d'autres avaient fait avant moi dans un style très ordinaire, au lieu de consigner ce que me suggérait mon propre esprit. Mais pourquoi vous ne l'écriviez pas sous la dictée de vos rêves? C'était par peur de votre famille ou c'était par peur de quoi? Par peur d'aspirer à plus de grandeur que ma condition ne le permet. Par peur de ne plus supporter les limites étriquées de ma vie, de mon être. Mais j'ai beau la brider, mon imagination, elle renaît sans cesse, vous savez. J'ai en elle un trésor. Elle est mon Kubla Khan, le noble jardin des délices où un fleuve puissant s'élance impétueusement vers la mer sans soleil. Et puis un jour, j'ai 15 ans. Sous le ciel d'Écosse, loin de mon père, la peur s'envole. Du haut de mes collines, je contemple la plaine et les montagnes qui s'étendent jusqu'à l'extrême limite de ma vision. Et voilà que sous les arbres du domaine où je me sens libre de communier sans être vu avec les êtres que j'imagine, je décide de me livrer au pouvoir enivrant de la fiction. C'est sur les flancs désolés des montagnes toutes proches, dépourvues de végétation, que mes vraies œuvres sont nées. Mes vraies œuvres, c'est-à-dire... Mais ça racontait quoi? Mais je ne faisais pas de moi l'héroïne de mes contes, c'était tout sauf un journal. J'écrivais des bribes de dialogue, des romans inachevés, des nouvelles. À la fin, je me relisais, j'étais jamais contente. Non que contente soit un mot que j'aime, j'ai toujours trouvé ce mot content, bon, content. Mot ridicule, c'est un mot insuffisant, mais bon, il m'arrivait des transes fugaces. Des enchantements éphémères pour un mot, une virgule, un paragraphe, un titre. La sensation ineffable d'avoir épinglé sur la page un souvenir, pas mon souvenir, mais un souvenir. Le mien, le vôtre, le souvenir de tout le monde. Alors là, seul dans ma chambre solitaire qui devenait le centre du monde, à l'instant où j'avais réussi ma phrase, Je relisais mes griffonneries et j'étais fière. J'explosais de joie. Le jour d'après, je commençais une nouvelle phrase et à nouveau ce sentiment contre la vision floue qui m'avait poussée à l'écrire et les mots sur la page. Quelque chose ne colle pas, quelque chose manquait, ça marchait pas, ça marchait jamais. Jusqu'au jour où j'ai décidé de proscrire l'agitation fébrile dans laquelle m'entretenaient mes fréquentations exclusivement féminines. Seule, sous les arbres, loin de la vie domestique qui m'ennuyait et rendait mes griffonneries aussi ternes que la répétition de ces journées peuplées de détails dérisoires, de vides, de rien. Je me suis fait le serment d'oublier. D'oublier ma vie de jeune fille condamnée à la fréquentation de ses semblables. D'oublier mes ruminations de femelle, de fuir, de m'échapper. Je n'étais pas prisonnière de mon identité. Et je savais peupler toutes ces heures de création qui, pour l'adolescente que j'étais, avaient bien plus d'intérêt que mes propres sensations. Mais alors, est-ce que c'est pour ça que vous n'avez jamais écrit de roman d'amour ? Moi, quand j'ai connu l'amour, figurez-vous, et que ma vie est devenue plus active, quand la réalité a remplacé la fiction, j'ai cessé d'écrire. Et parce que votre mari vous en empêchait ou... Ah non, mais... Vous étiez... Non. Dès le début, mon mari, il a eu à cœur de me voir prouver que j'étais digne de mes parents, en m'inscrivant dans leur lignée, et puis en écrivant mon nom sur le livre d'or de la renommée. Il m'incitait à me faire un nom en littérature, et j'y attachais moi-même... beaucoup de prix à l'époque, même si depuis... Mais j'y suis devenue infiniment indifférente. Mon mari désirait alors tellement que j'écrive. Oui, mais alors s'il vous encourageait tellement à écrire, pourquoi vous avez arrêté ? Les voyages et les soins à prodiguer à une famille occupaient tout mon temps. Je ne griffonnais plus rien. Tout le travail littéraire auquel je me consacrais se résumait à l'étude, par la lecture ou par le dialogue avec un esprit bien plus cultivé, comme l'était celui de Percy.
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright. In her aspect and her eyes. Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every raven tress. Or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. And on that cheek and o'er that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent.
Tu te rabaisses, ma fille. Et puis quelle idée aussi d'aimer un poète. Quand on est une femme de lettres, il faut aimer un dentiste, un notaire, un médecin. Des hommes qui respectent la littérature mais qui n'y comprennent rien.
Si tu disais vrai, maman, je ne serais jamais née. Et née deux fois même. Une première fois, fille de deux écrivains illustres. Une seconde fois, le jour de ma rencontre avec l'homme que son admiration pour l'œuvre de mes parents a attiré vers moi. Du plus profond de mon cœur, mille émotions jaillissaient comme d'une fontaine. L'âme même de Shelley planait dans l'air que je respirais. Ses yeux, toujours et pour toujours, rencontraient les miens. Le souvenir de son sourire m'aveuglait et je marchais... comme si j'étais non pas dans une éclipse, ni dans les ténèbres, ni encore moins dans le vide, mais dans une lumière neuve et brillante, trop nouvelle et trop éclatante pour mes sens humains. Sur chaque feuille, sur chaque élément de l'univers se trouvait gravée la formule magique du talisman de mon existence. Il vit. Il est. Je n'avais pas encore eu le temps d'analyser mes sentiments, de me sermonner, de brider ma passion indomptée. Je n'avais qu'une idée, qu'un sentiment, qu'une conviction. Il est ma vie.
Et où, ma chère fille, as-tu rencontré ce prince charmant ?
À l'ombre des deux saules qu'avait fait planter mon père pour perpétuer votre amour sur ta tombe. À Londres, au cimetière Old St. Pancras, où je venais te lire et te parler.
Une rencontre au bord d'une tombe. On croirait ce roman gothique que j'ai lu durant les mois où je te portais dans mon ventre. Le moine.
Mais vivre avec Shelley, chère maman, c'était comme jouer dans un roman. Être un roman. Son intelligence donnait à sa conversation une force de persuasion irrésistible. Il faisait songer à un musicien inspiré, produisant une harmonie divine. Sa personne paraissait à peine appartenir à ce monde. Plus il parlait, plus je me sentais subjuguée. Les terres clôturées de la civilisation que j'avais jusque-là, depuis mes rêveries sauvages, considérées comme inaccessibles, s'ouvraient à moi. Je m'avançais, et au moment où mon pied se posa sur ce sol neuf, je sus qu'il m'était familier.
Dans un tel état d'exaltation, ma chère fille, que trouvais-tu à raconter à ton poète sublime au bord de ma tombe ?
Le cadavre pourrissant, sous ce tendre souffle, s'exhale en fleurs à la laine odorante. Pareil à des étoiles incarnées, dont la splendeur en parfum se change. Elles illuminent la mort et se flouent du verre qui veille au-dessous.
Like incarnations of the stars, when splendor is changed to fragrance, they illumine death and mock the merry worm that wakes beneath.
Ma chère mère, toi dont la présence invisible s'exhalait en fleurs odorantes, c'est toi qui me transmis l'audace, le 26 juin 1814, de déclarer à Shelley « Je suis tienne ». Le même été, au beau milieu de la nuit, nous prîmes la fuite. Et ensuite, j'ai vécu. Extase, allégresse, plénitude. J'ai connu toutes les multiples et changeantes nuances de la joie. Tout s'est évanoui et ma vie est telle une rivière qui court au milieu d'un désert. Ma mémoire est comme la plaque de cuivre où s'impriment ces événements. Ma pensée comme un graveur inlassable. La France, le dénuement. Quelques jours de solitude et une ombre d'inquiétude. Un séjour apaisé en un lieu de beauté. La Suisse, Bath, Marlow, Milan, les bains de Luc, Este, Venise, Rome, Naples, Rome de nouveau. Et le malheur, Livourne, Florence, Épise, la solitude. Les Williams, Bagny, Pise, autant de chapitres dont chacun renferme un conte plus romantique que le plus fantasque des romans. Étrange vie que celle que j'ai menée. L'amour, la jeunesse, la crainte et la hardiesse s'allièrent pour me détourner précocement d'une existence monotone et réglée. Je me suis unie à un être qui, bien que d'apparence similaire à la nôtre, n'était pas de notre essence. Et j'ai partagé les infortunes et vexations innombrables qui s'acharnaient à le poursuivre. Le temps passant, je suis devenue mère, comme il en va de bien des femmes, et j'ai donné naissance à de beaux enfants. Mais ceux-ci ne s'attardèrent pas longtemps auprès de moi, et je connus la torture de savoir que ces formes de chair que j'avais portées dans mon sein et nourries de mon lait allaient tomber en poussière avant moi.
Ma chère Marie, pourquoi t'en es-tu allée? Et dans ce triste monde, seul m'as-tu laissé. Ton corps est bien ici, si charmant. Mais tu as fui, parti sur une triste route qui conduit à la demeure la plus obscure du chagrin. Pour ton propre bien, je ne peux pas te suivre, mais reviens pour le mien.
Je suis revenue. J'ai repris les voyages, la fuite, les errances, transportant avec moi une mèche de ma petite Clara. À l'été 1816, nous avons visité la Suisse.
Vous qui vous imaginez,
je n'oublierai jamais notre rencontre avec Lord Byron.
De la même façon que ce lac lie le moindre coude, la moindre crevasse des collines qui l'environnent, confiez-moi votre opinion à mon sujet. Futur roi, soit, mais ange ou démon, lequel des deux ?
Plus tard, Shelley m'a avoué qu'il n'avait jamais eu l'honneur d'un tel compliment. Capable de lire l'âme humaine, il a vu l'écrivain en toi. Shelley, jaloux de sa femme qui, à 19 ans, n'avait rien publié. Moi, insensible à l'hommage de Byron, j'ai rétorqué « Il y a un esprit, ni ange ni démon, qui est simplement condamné à errer dans les limbes. » La petite cour qui se pressait près du poète a retenu son souffle. Byron a éclaté de rire, puis, désignant le lac auquel il venait de comparer mon âme, il a proposé à notre compagnie de nous divertir en voguant sur ses eaux. Hélas, ces promenades délicieuses ne durèrent pas. Cet été se révéla pluvieux, désagréable. Souvent une pluie incessante nous empêchait, des jours et des jours, de sortir de la maison.
Studio le jour et la nuit dissolue, ce fait que jamais l'ennemi n'a battu.
Nous sommes quatre dans la bibliothèque. Lord Byron, Shelley, Polidori et moi. L'averse frappe aux vitres. Au loin, le lac invisible se confond avec la pluie et la brume. L'eau. L'eau de toutes parts. L'eau. L'eau de toutes parts. Dans la pénombre, quelques rares chandelles projettent une lueur tremblante sur les volumes d'histoires allemandes. Les livres semblent doués d'une vie propre, comme si les cadavres, les revenants et les spectres s'apprêtaient à en sortir pour nous menacer. Il y a l'amant inconstant qui, croyant étreindre celle qu'il a promis d'épouser, se retrouve dans les bras du fantôme blême qu'il a abandonné. Il y a le coupable fondateur de sa lignée, dont c'est l'affreuse destinée que de donner le baiser de mort à tous les fils cadets de sa dynastie maudite, au même moment où ils atteignent la nage de promettre le mariage. On voit sa forme gigantesque et ténébreuse, vêtue de pied en cap d'une armure, à l'instar du fantôme de Hamlet, mais la visière relevée, avançait lentement, à minuit, au rayon capricieux du clair de lune, le long de la lugubre avenue. La forme se perd dans l'ombre des murs du château, mais bientôt un portail se rabat, on entend un bruit de pas. La porte de la chambre s'ouvre, et il s'avance vers la couche des jeunes gens resplendissants de vie, étendus dans le berceau du sommeil. Un chagrin éternel habite son visage, cependant qu'il se baisse et baise le front de ces garçons qui, dès lors, se flétrissent comme des fleurs arrachées à leur tige.
L'heure de la sorcellerie a sonné.
De retour dans ma chambre, j'essaie d'écrire une histoire. Une histoire qui rivalise avec celles qui nous ont inspirées. Une histoire qui s'adresse à nos peurs mystérieuses, qui éveille une horreur poignante, une histoire qui fait que le lecteur n'ose pas regarder autour de lui, une histoire qui glace le sang et fait battre le cœur. Sinon, mon histoire de fantôme ne sera pas digne de son nom. Je réfléchis. Je soupèse. Rien. Ça marche pas, ça marche jamais. Je suis découragée. Incapable d'écrire. D'inventer. Chaque nuit, je me couche. Rien. Chaque matin, je me lève. Rien, rien. Chaque matin, à la table du petit déjeuner.
As-tu pensé à une histoire ?
As-tu pensé à une histoire ?
Rien. Rien, rien. Mes journées se traînent jusqu'au soir, jusqu'à ma nuit stérile, précédée par le sortilège de Lord Byron, qui me poursuit comme un sarcasme, une malédiction.
L'heure de la sorcellerie a sonné, a sonné.
Il faut à toute chose son commencement, l'invention, On doit humblement le reconnaître, ne consiste pas à créer à partir du néant, mais à partir du chaos. Il faut en premier lieu disposer les matériaux. L'invention peut donner forme à des substances obscures et informes, mais elle ne peut donner forme à la substance elle-même.
Croyez-vous qu'il sera un jour possible de découvrir la nature du principe de vie ?
Le docteur Erasmus Darwin prétend qu'il a conservé un peu de vermicelle dans un récipient en verre, et qu'au bout d'un certain temps, le vermicelle s'est déplacé, animé par un mouvement volontaire.
Quelle chose extraordinaire ! Un vermicelle élevé dans l'ordre de la création, au rang de l'homme qui marche.
Tout provient le principe de vie. Tout provient le principe de vie. Pour observer ce qui cause la vie, il nous faut d'abord recourir à la mort. Peut-être pourrait-on ranimer un cadavre. Peut-être les parties constituées d'une créature pourraient-elles être fabriquées, assemblées et pourvues de la chaleur vitale. Peut-être pourrait-on ramener à la vie tous les enfants morts. Et alors je verrai, sortant d'un grand récipient en verre, agitant ses membres engourdis vers moi, le corps sans vie de ma petite Clara. Clara ! Clara ! La nuit s'écoulait tandis qu'ils conversaient de la sorte, et même l'heure de la sorcellerie était passée avant que nous nous retirions pour prendre du repos. Lorsque je mis la tête sur l'oreiller, je ne dormis point. Et l'on ne pourrait dire que je pus penser. J'étais, au tréfonds de moi-même, en situation d'insurrection et de tumulte. Je sentais qu'un nouvel ordre en surgirait, mais je n'avais pas le pouvoir de le créer. De son propre chef, mon imagination prit possession de moi et me guida, conférant aux images qui naissaient tour à tour en moi une vivacité allant bien au-delà de ce que l'on éprouve habituellement lorsque l'on s'adonne à la rêverie. Je vis, les yeux fermés, mais c'était une vision mentale très aiguë, je vis l'homme blême s'adonnant aux arts illicites, agenouillé auprès de la chose qu'il venait d'assembler.
Cet être que j'avais lancé au milieu des humains, à qui j'avais conféré la volonté et la capacité de créer l'horreur, je le tenais presque pour mon propre vampire, mon propre fantôme, échappé de la tombe et destiné à détruire tout ce qui m'était cher.
Le voici qui dort, et quelque chose le réveille, il ouvre les yeux, l'horrible chose se dresse à son chevet, ouvre ses rideaux, le regarde avec des yeux jaunes, délavés. En proie à la terreur, j'ouvre les yeux. Oublier l'affreuse image. Me débarrasser de mon hideux fantôme. Je m'accroche aux réalités qui m'entourent, ma chambre.
T'écoutons.
Le parquet sombre, les volets fermés, le clair de lune et le lac. Le lac, semblable à un miroir, le lac. Aussi immobile qu'une mer de glace et les Alpes. Hautes et blanches les Alpes. Hostiles et froides. Et toujours mon spectre aux yeux jaunes, méhantes, dont l'histoire de fantômes, ma terreur blême, mon épouvante. S'il m'était donné d'inventer une histoire qui puisse épouvanter mon lecteur, comme j'ai été moi-même épouvanté cette nuit-là. J'ai trouvé. J'ai trouvé mon histoire de fantôme.
Nous t'écoutons.
C'est par une sinistre nuit de novembre que je contemplais l'aboutissement de mes efforts acharnés. Avec une anxiété qui confinait presque à la torture, je rassemblais autour de moi les instruments de vie, afin de pouvoir communiquer une étincelle d'existence à la chose inerte gisant à mes pieds. Il était déjà 1h du matin, lugubre. La pluie fouettait les vitres et ma chandelle était presque entièrement consumée lorsque, dans la lueur de cette lumière expirante, je vis s'ouvrir l'œil terne et jaune de la créature. La chose se mit à ahanner, les membres agités d'un mouvement convulsif. Oh, mon bien-aimé Shelley, me voici seule désormais. Oh, combien seule. J'écris et tu ne vois pas ce que j'écris. Le 8 juillet 1822, tout prit fin ce jour-là. Le soir est proche lorsque, du côté de la mer, comme sous la baguette d'un magicien, un sombre réseau de nuages qui fait tache sur l'azur du ciel vespéral s'élève, assombrissant et tourmentant l'océan jusqu'alors paisible. Les nuages prennent des formes étranges, fantastiques, se modifient, se mêlent comme sous l'action d'un charme puissant. Les vagues dressent leurs crêtes blanches. Le tonnerre d'abord gronde, puis éclate de l'autre côté de la surface des eaux qui prennent une vive teinte pourpre, parsemée d'écume. Contournant ce cap, soudain arrive un vaisseau poussé par le vent.
And now the storm blast came, and he was tyrannous and strong. The ship drove fast, loud roared the blast. And now there came both mist and snow, and it grew wondrous cold. And ice, mast high, came floating by. The ice was all between. The ice was here, the ice was there. The ice was all around. At length did cross an albatross. Through the fog it came, and round it flew. The ice did split with a thunder fit. God save thee, ancient mariner, from the fiends that plague thee thus. Why look'st thou so? With my crossbow I shot the albatross. And I had done a hellish thing, and it will work and woe, for all averred I had killed the bird that made the breeze to blow. Ah, wretch, said they, the bird to slay that made the breeze to blow. Day after day, we stuck, nor breath, nor motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. Water, water, everywhere. Water, water, everywhere. Nor any drop to drink. The very deep did rot. O Christ, that ever this should be. Yea, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. The water, like a witch's oils, burnt green and blue and white, and some in dreams assured were of the spirit that plagued us so. 9 fathom deep he had followed us from the land of mist and snow. Ah, well-a-day, what evil looks had I from old and young. Instead of the cross, the albatross about my neck was hung.
Hélas, je suis seule. Il n'est plus de regard qui réponde au mien. Personne auprès de qui ma voix retrouve ses inflexions naturelles. Il ne reste que simulacre. Et je ne suis plus qu'une ombre. Comment le monde appelle-t-il une femme qui a perdu son mari ? Veuve. Comment le monde appelle une femme qui a perdu ses enfants ? Je sais pas. J'avais mes rêves. Oh, mes lumineuses rêveries. Mon soleil bien-aimé. Mes rêves peuplèrent le cimetière où je fus condamnée à errer. Dès mon plus jeune âge. Je me demande quand se lèvera le soleil de minuit.
Mary Shelley, une fiction, de Hélène Frappin. Réalisation Christophe Auquet. Enregistré en public dans la cour du Musée Calvet, vendredi 12 juillet 2019, dans le cadre du Festival d'Avignon, avec Anne-Lise Heimberger. Musique originale, Olivier Mélano, avec la participation de John Greaves, et les voix de Dominique Raymond, François Loriquet, William Nadilam, Vladislav Galard, Julian Egerix, Sharif Andoura, Sephora Pondy et John Greaves. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Perry et Bastien Varigaud. Sonorisation, Benjamin Thiot. Assistante à la réalisation, Louise Lebrieux. Remerciements à Anne Bouchicot, Irène Sorel, Thierry Allaire et les équipes du Festival d'Avignon.